Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous sommes à l'étude numéro 12. Eh bien oui, entre la vie et la mort, il a été constaté que les véritables chrétiens rencontrent le Christ. Le récit suivant en est un exemple. Voici le témoignage. Soudain, les violentes douleurs qui me comprimaient la poitrine disparurent. Je me sentis plein de joie. Je ne puis exprimer correctement ce sentiment. Je flottais dans un endroit qui ressemblait au paradis. La lumière était extraordinairement claire. Il y avait des bâtiments, des rues d'or, et je vis une silhouette vêtue d'une robe blanche qui brillait. Je ne lui ai pas parlé, je suis certain que c'était Jésus. Lorsqu'il me prit la main, je perdis conscience et me retrouvai soudain dans mon corps. Vous étiez en train de me secouer et la douleur réapparut. J'étais de retour sur terre. Je n'oublierai jamais ce moment de bonheur et je veux le revivre. Voici une autre rencontre avec un ange de lumière. Voici le témoignage. Je compris que j'allais mourir. Je venais d'arriver à l'hôpital quand je fus pris d'un violent mal de tête. Je vis une grande lumière, tout tourner autour de moi. Puis je me sentis libre et paisible, éprouvant seulement une mystérieuse sensation de bien-être. Je regardais l'équipe médicale qui me soignait et cela ne me fit ni chaud ni froid. Je me demandais pourquoi. Puis je fus soudain enveloppé dans un nuage noir et m'engouffrai dans un tunnel. J'émergeais à l'autre extrémité dans une lumière blanche qui luisait doucement. Mon frère décédé 3 ans plus tôt était là. J'essayais de franchir un seuil, mais mon frère se tenait devant moi et m'empêchait de voir ce qu'il y avait derrière lui. J'y parvins cependant. C'était un ange étincelant, un ange de lumière. Je fus enveloppé par la forme d'amour qui émanait de cet ange et qui débusquait et pesait mes pensées les plus secrètes. Après avoir été ainsi sondé, je fus, semble-t-il, autorisé à percevoir les esprits d'autres êtres chers qui étaient morts avant moi. Puis mon corps sursauta sous l'effet du choc électrique auquel on me soumit et je sus que j'étais de retour sur terre. Depuis que je suis remis de cette rencontre avec la mort, je n'ai plus peur de mourir. Je suis déjà allé là-bas. Je sais ce que c'est. La rencontre d'un être de lumière aimant et inquisiteur dans un environnement magnifique est communément rapportée. Cependant, dans tous les écrits et tous les récits, le sujet réintègre son corps avant qu'une quelconque décision soit prise ou une sentence rendue. Le récit suivant provient d'un malade non chrétien. Écoutez attentivement. Il y avait 3 semaines que j'étais au service de cardiologie avec une crise cardiaque lorsque je fus éveillé par des infirmières et un homme en blanc. et se préparait à me faire une piqûre et je demandais « Que se passe-t-il ?» L'une des infirmières répondit que mon enregistreur s'était complètement arrêté. Je me souviens que je lui ai demandé de ne pas prévenir ma famille à cause de l'heure tardive. Je tendis le bras de telle sorte que l'homme puisse injecter le liquide dans le tube à perfusion. Or, soudain, je sentis que je montais rapidement dans un tunnel, sans heurter les parois. Puis je fus arrêté par un personnage brillamment éclairé. Il lut mes pensées et passa ma vie en revue. Il me dit de partir, que mon heure viendrait plus tard. L'accueil fut chaleureux. Je ne saurais dire comment j'ai réintégré mon corps, mais je me souviens que l'on m'a réanimé et que l'on m'a dit que mon cœur s'était arrêté et que l'on venait juste de le remettre en marche. J'hésitais à parler de cela à mes proches, car je ne voulais pas les ennuyer avec cette étrange expérience. Or, cette expérience changea totalement ma vie future. Cette lumière illumine parfois le paysage tout entier. On la présente en général comme éblouissante, mais non aveuglante. Certains sujets voient un être dans la lumière, d'autres non. Dans tous les cas, il semble que cette lumière favorise la transmission des pensées avec l'ensemble de l'environnement. Ceux qui ont une foi solide ne doutent pas qu'elle représente Jésus-Christ. Il semble que les expériences de vie après la mort affectent profondément ceux qui les ont fait et que leur vie s'en trouve changée. Voici un autre témoignage. Jusqu'à ce que la vie me soit retirée, j'avais toujours considéré le statut social et les signes extérieurs de la richesse comme les éléments les plus importants de l'existence. Je sais maintenant qu'ils ne sont d'aucune importance. Seul l'amour donné aux autres durera et laissera un souvenir. Les choses matérielles ne comptent pas. Notre vie présente n'est rien en regard de ce que nous vivrons plus tard. Je n'ai pas peur de mourir une nouvelle fois. Ceux qui ont peur de mourir ont certainement une sérieuse raison ou bien ne savent pas ce que c'est. Certains sujets racontent que leurs sens sont plus aiguisés pendant l'existence spirituelle. Il leur arrive de déceler une odeur légèrement sucrée dans l'air, un fond de musique, ou d'éprouver une extraordinaire sensation de bien-être. Dans notre ville, il y a quelques années, au lendemain d'une violente tempête, une équipe d'ouvriers de la société de distribution d'électricité posait une chaîne destinée à mettre le courant à la terre sur des lignes électriques qui ont été jetées au sol. On avait oublié malheureusement de couper le courant et cette chaîne se trouva enroulée autour de la jambe de l'un des ouvriers. Il tournoya et s'abattit. Ses camarades coupèrent la chaîne et après s'être assurés que le cœur ne battait plus et que la respiration avait cessé, ils entreprirent de le réanimer. La compagnie leur avait donné une formation et il savait quoi faire en cas d'urgence. Quand je le vis au service d'urgence de l'hôpital, il était vivant, bien que totalement inconscient. Ses pupilles étaient normales, mais il fallait parer aux irrégularités du rythme cardiaque. Notre équipe de chirurgie esthétique dut réaliser une greffe, car une large surface de peau avait été carbonisée au niveau de la cheville. Le lendemain, lorsqu'il se réveilla, il se rappela avoir entendu une belle musique et avoir pénétré dans une aura d'existence calme et paisible longtemps avant de reprendre conscience. Le plus étrange était qu'il continuait d'entendre la musique une fois éveillé. Il était si troublé qu'il demanda à un visiteur de chercher d'où venait la musique. Mais le visiteur n'entendait rien. Il y avait plusieurs autres éléments dont il ne pouvait se souvenir, mais cette expérience influença profondément sa vie. Et depuis lors, il s'adresse à tous les groupes ou individus qui veulent bien l'écouter pour leur dire d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Il arrive que l'arrivée en enfer, ou ce qui est perçu comme tel, se fasse directement. De même, certains sujets racontent qu'ils se sont retrouvés directement au paradis ou ce qui leur semblait être le paradis. Bien qu'ils traversent généralement une sorte d'air de triage dans les bonnes expériences comme dans les mauvaises, la barrière est alors souvent figurée comme une clôture, un mur ou tout autre obstacle comparable. Un malade entre deux âges, obèse, qui vécut de multiples morts et de nombreuses expériences avant de décéder définitivement, raconta qu'il avait, à l'occasion de certains décès, visité des séjours célestes. Sa tension élevée l'exposait à de fréquentes crises cardiaques qui provoquaient à chaque fois fébrilation et mort clinique brutale. Le plus souvent, après une convulsion, il perdait totalement conscience. Toute respiration cessait au bout de 2 ou 3 minutes si l'on n'agissait pas, et chaque fois, les chocs électriques et la réanimation le ramenaient à la vie. Si ces arrêts du cœur s'étaient produits chez lui, il est évident que la mort prématurée en aurait résulté. Quoi qu'il en soit, ces épisodes de mort réversible se produisent tous ou tous les 4 ou 5 jours, et chaque fois, il racontait une expérience de vie extra-corporelle. Je ne rapporterai que 2 de ces expériences. La première, pour illustrer une aptitude remarquable à décrire ce qui s'était passé dans la chambre, et la seconde, pour évoquer le passage dans un royaume céleste. Voici son témoignage. Je me tournais pour répondre au téléphone et aussitôt les violentes douleurs à la poitrine me reprirent. J'appuyais sur le bouton pour appeler l'infirmière. Ils entrèrent et commençaient à me soigner. Ils versèrent des médicaments dans la bouteille à perfusion pendu au support qui se trouvait près du lit et dont le tube me pénétrait dans le bras. Je me sentais misérable sur ce lit. J'avais l'impression qu'un éléphant m'avait posé le pied au milieu de la poitrine. Je suais et j'étais sur le point de vomir quand je constatais que je perdais conscience. Tout devint noir. Mon cœur cessa de battre. J'entendis les infirmières crier « Code 99 !»« Code 99 !» L'une d'elles composa le numéro de l'interphone de l'hôpital sur le cadran du téléphone. Pendant ce temps, je sentis que je quittais mon corps par la tête, m'en séparais et flottais dans l'air sans éprouver la sensation de tomber. Puis je me retrouvais debout et regardais les infirmières m'appuyer sur la poitrine. Deux nouvelles infirmières pénétrèrent dans la chambre. L'une portait une rose sur son uniforme. Deux autres infirmières entrèrent alors, accompagnées d'un infirmier, et je constatai que mon médecin avait interrompu sa consultation pour venir à mon chevet. Il m'avait vu un peu plus tôt. Quand il entra dans la chambre, je me demandais pourquoi il était là. Je me sentais bien, puis il quitta son manteau et remplaça l'infirmière qui m'appuyait sur la poitrine. Je remarquai qu'il portait une cravate à rayures bleues. Puis la chambre devint obscure et j'eus l'impression de me déplacer rapidement dans un couloir sombre. Et tout d'un coup, je sentis un horrible choc au niveau de la poitrine. Mon corps bougea, mon dos s'arqua et je ressentis une terrible brûlure à la poitrine, comme si l'on m'avait frappé. Puis je m'éveillais et me retrouvais dans mon lit. Il ne restait que deux infirmières et un infirmier. Les autres étaient partis. Ce que ce malade a vu, y compris le nombre de gens, ce qu'ils ont fait et les vêtements qu'ils portaient, a été vérifié par la suite. La reconstitution de la succession des événements a montré qu'il était inconscient et que son cœur ne battait pas pendant la période qu'il a évoquée. Contrairement à la majorité de ceux qui ont échappé à la mort, ce malade vécut dans l'au-delà toutes les fois qu'il fut réanimé. Toutes ses expériences furent différentes, mais toutes furent agréables. Et voici l'une de ses descriptions du ciel. Écoutez, chers amis, attentivement. Lorsque je repris conscience, je flottais au fond de la chambre, près du plafond, et je regardais mon corps, les pieds au premier plan. Je m'en souviens bien, car je me suis dit, j'ignorais que j'avais d'aussi grands pieds. Est-ce véritablement moi? Il me soigne encore, mais je dois être mort. Je les vis apporter un électrocardiographe et tout de suite après l'appareil à choc électrique. J'eus l'impression qu'il y avait des tubes partout. L'un d'eux, dont l'extrémité aboutissait à un réservoir d'oxygène, me rentrait dans le nez et j'en avais un autre dans le bras. Pendant ce temps, je flottais et rien n'indiquait que je doive tomber. Puis je les entendis dire « Je ne suis pas sûr qu'il reviendra cette fois-ci. » Ce dont les seuls souvenirs que je garde de la chambre, et ensuite, je me déplaçais rapidement dans un tube obscur, sans toucher les parois, et bientôt, j'eus la joie de voir de nouveau la lumière, mais cette fois, le mur ne m'arrêta pas. Je passais directement de l'autre côté. Je voulais donc dans l'espace, et on peut dire que je rentrais dans l'espace à une très grande vitesse. Or, sous moi, il y avait une rivière. Tout s'éclairait. Je constatais que je survolais une magnifique cité tout en suivant la rivière comme un oiseau qui s'élève. Les rues semblaient pavées d'or. Elles étaient incroyablement belles. Je ne puis les décrire. Je descendis dans l'une d'elles. Il y avait des gens tout autour de moi, des gens heureux qui parurent contents de me voir. Leurs vêtements semblaient briller d'une douce lueur. Personne ne se dépêchait. D'autres personnes vinrent dans ma direction, et je crois que c'étaient mes parents. Mais à ce moment-là, je m'éveillais de retour dans la chambre d'hôpital. J'avais réintégré mon corps. Cette fois-là, j'aurais vraiment préféré qu'il ne me réanime pas. Il y a assez longtemps que je subis tout cela. Laissez-moi rester. Ce malade a toujours eu de bonnes expériences, jamais de mauvaises. Il se disait chrétien et affirmait qu'il avait déjà visité l'endroit où il irait. Il ne voulait plus être réanimé. Il en avait assez des difficultés respiratoires et des douleurs à la poitrine. Il parla de ses expériences et de l'au-delà à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, qu'il s'agisse du personnel de l'hôpital ou de visiteurs. Puis son vœu fut exaucé, et un jour il ne revint pas après le prochain accident cardiaque. Un pasteur rapporte le cas intéressant que voici. Une infirmière de l'hôpital m'appela en pleine nuit et m'avertit que Madame D, l'une des paroissiennes de ma petite église, était mourante. Elle me demandait de venir à son chevet. Je m'habillai en hâte et me rendis à l'hôpital aussi rapidement que possible. Quand je sortis de l'ascenseur, l'infirmière me dit « Je suis désolé de vous avoir tiré du lit, car Madame D est entre-temps décédée. » Elle me conduisit ensuite dans la chambre où Madame D, une petite dame frêle aux cheveux argentés, elle était morte d'un cancer. On me dit que toutes les fonctions vitales avaient cessé. Je priais, m'adressant simplement à haute voix à Dieu, en lui disant que Madame D n'avait pas insisté sans raison pour que je vienne. Et je demandais au Seigneur de me faire connaître cette raison, si elle était sa volonté. Je vis alors tout à coup les paupières de Madame D battre, j'entendis un bruit de frottement, et ce fut le branle-bas dans la chambre. Madame D ouvrit les yeux tout grands et me regarda. Elle murmura, « Je vous remercie, pasteur Golan, d'avoir prié. Je m'entretenais justement avec Jésus et il me demandait de revenir et de faire quelque chose pour lui. J'ai également vu Jim, son mari, mort peu de temps auparavant. » Elle se retourna, monta les genoux sous le menton et la respiration paisible s'endormit. Dans le couloir, en regagnant l'ascenseur, j'entendis un bruit de pas précipité. L'infirmière, qui avait assisté à toute la scène, me rejoignit et me dit « J'ai très peur. Qu'avez-vous fait ? Cette femme était morte et la voilà vivante. Il y a très longtemps que j'exerce pourtant ce métier et je n'ai jamais rien vu de tel. Lorsque elle fut rétablie, Madame D décrivit au cours de nombreuses causeries ce qu'elle avait vu pendant sa mort. Jésus, dans son brillant éclat, et Jim, son mari décédé. Elle voulait rester au paradis, mais Jésus lui avait ordonné de repartir et de parler au monde. Puis un jour, elle me fit venir chez elle et me dit qu'elle entrait de nouveau à l'hôpital, mais cette fois pour aller au paradis et y rester. Et cette fois, ajouta-t-elle, ne priez pas pour que je vive. Tout aussi révélateur est le récit de ce malade qui, porté par un ange, a visité une cité céleste. Voici son témoignage. Mon premier stimulateur cardiaque ne fonctionnait pas correctement. J'étais entré à l'hôpital pour m'en faire poser un œuf. Je demandais à ma femme et à mon beau-frère d'aller chercher l'infirmière. Mon cœur ne battait, on peut dire, plus comme il faut. Je le sentais, puis je me souviens que quelqu'un a crié « Code 99, code 99 ». Je quittai la chambre immédiatement après. Une infirmière, me semblait-il, me saisit par derrière, m'en serrant la taille entre ses bras, et nous nous élevâmes au-dessus de la ville, de plus en plus rapidement. C'est en regardant mes pieds que je compris que ce n'était pas une infirmière. Je suis maintenant certain qu'il s'agissait d'un ange. Au bout d'un moment, elle, l'ange, me déposa dans une rue d'une cité fabuleuse où les immeubles étaient faits d'or et d'argent et où poussaient des arbres magnifiques. L'ensemble baigné dans une lumière extraordinaire, étincelante, mais pas assez aveuglante pour m'obliger à fermer les yeux. Dans cette rue, je rencontrai mon père, ma mère et mon frère, tous décédés avant moi. J'entendis ma mère dire « Tiens, voilà Paul ». Cependant, alors que je m'avançais vers eux pour les saluer, l'ange me saisit de nouveau la taille et m'emporta dans le ciel. Je ne savais pas pourquoi il ne voulait pas que je reste. Dans le lointain, la ville se découpa sur l'horizon et je reconnus les immeubles, je vis l'hôpital où l'on me soignait. L'ange descendit et me posa dans la chambre que j'avais quittée un peu plus tôt. Ouvrant les yeux, je vis les visages des médecins qui me soignaient. J'avais donc réintégré mon corps. Chers amis, rares sont ceux qui franchissent la barrière et qui sont en mesure de rentrer pour raconter ce qu'ils ont vu. Il y a pourtant le cas de Betty Maltz, restée 40 jours dans le coma à la suite d'un éclatement de l'appendice. Elle entendit pendant cette période tout ce qui se dit dans la chambre. Si les sens corporels étaient affaiblis, il semble que les sens spirituels soient devenus plus aigus. Pendant qu'elle était dans le coma, elle voyagea dans un environnement étincelant. Elle ne ressentit jamais aucune lassitude, seulement un sentiment d'extase. Un ange l'accompagnait. Ils arrivèrent devant une porte dans un épais mur de marbre. Elle fut invitée à entrer et à chanter avec les autres les hymnes qu'ils interprétaient. Après quoi, on lui donna le choix de retourner ou de franchir la porte. Puis elle se souvient qu'elle a surpris tout le monde en repoussant elle-même le drap qu'on lui avait déjà tiré sur le visage. Chers amis, nous en arrivons enfin à des témoignages qui n'ont reçu jusqu'ici que peu de publicité. Ils proviennent de sujets qui, au sortir de la mort clinique, prétendent être allés en enfer. Parmi ceux-ci, il semble que certains aient franchi la barrière ou la frontière qui sépare les aires de triage de ce qui pourrait être l'endroit où se déroule le jugement. Il apparaît également que ceux qui ne rencontrent pas de barrière pénètrent aussitôt après la mort dans un type différent d'air de triage, morne et obscur, comparable au château fantôme des fêtes foraines. Dans la majeure partie des cas, cet endroit se trouve sous terre, ou d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur de la terre. Dans son livre intitulé « Oregon's Amazing Miracle », Thomas Welsh décrit une expérience des plus étranges au cours de laquelle il vit un immense lac de feu, spectacle le plus effrayant qui se puisse imaginer de ce côté-ci du jugement dernier. Alors qu'il travaillait comme aide-ingénieur à la Lumber Company à l'est de Portland, dans l'Oregon, on lui demanda de marcher sur une poutre située au-dessus d'un barrage, 10 mètres au-dessus de l'étang près duquel se trouvait la scierie. Et voici son récit. Je m'avançais sur la poudre afin de remettre en place des grumes qui, en se croisant, avaient bloqué le ruban transporteur. Soudain, je perdis l'équilibre et tombai entre les grumes, puis dans l'étang, où il y avait 3 mètres d'eau. Un ingénieur qui déchargeait des billes de bois dans l'étang me fit tomber. Ma tête heurta la première poutre, 9 mètres plus bas, puis je rebondis d'une poutre à l'autre pour tomber finalement dans l'eau où il me perdit de vue. 70 ouvriers travaillaient à la scierie à ce moment-là. On stoppa les machines et tous les hommes disponibles se mirent à la recherche de mon corps. Les recherches durèrent entre 45 minutes et 1 heure. Puis, Mr. Edge H. Grunderson, qui a rédigé son propre compte rendu afin de confirmer la véracité de ce témoignage, me découvrit enfin. j'étais mort, du moins en ce qui concerne ce monde. Mais j'étais vivant dans un autre monde. Et j'ai plus appris pendant cette heure hors de mon corps que je ne pourrais jamais apprendre dans ce corps. Je me souviens seulement que j'ai perdu l'équilibre sur l'échafaudage. Lorsque je repris conscience, j'étais debout au bord d'un immense lac de feu. C'était exactement comme décrit dans la Bible, Apocalypse chapitre 21, verset 8. Un lac embrasé de feu et de soufre. Et c'est le spectacle le plus effrayant qui se puisse imaginer de ce côté-ci du jugement dernier. Je me souviens plus clairement que de tout ce qui m'est jamais arrivé dans ma vie, de tous les détails de ce que j'ai vu et de ce qui s'est passé pendant l'heure que j'ai vécu hors de ce monde, je me tenais à quelque distance de cette masse mouvante, turbulente et brûlante de feu bleu. Elle s'étendit aussi loin que mes yeux pouvaient porter. Je n'étais pas dedans, je vis quelqu'un que j'avais connu et qui était mort quand j'avais 13 ans. Il y avait aussi un garçon avec lequel j'avais été à l'école et qui était mort d'un cancer de la mâchoire à cause d'une dent infectée, alors qu'il était tout jeune. Il avait 2 ans de plus que moi. Nous nous sommes reconnus, mais nous ne nous sommes pas parlés. Eux aussi regardaient. Ils semblaient indécis et profondément préoccupés, perplexes, comme s'ils ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient. Le spectacle était si terrifiant qu'il est impossible de le décrire. On peut seulement dire que nous assistons au jugement dernier. Il est impossible de s'échapper, il n'y a pas d'issue. On n'essaie même pas d'en trouver une. C'est une prison d'où personne ne peut sortir sauf sur une intervention divine. Je me dis à voix haute, si j'avais su, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour éviter de venir dans un endroit comme celui-ci. Mais je ne savais pas. Tandis que ces pensées me traversaient l'esprit, je vis un homme s'avancer vers nous. Je sus immédiatement qui c'était. Son visage était ferme, bon, compatissant et ne laissait paraître aucune frayeur. Il était le maître de tout ce qu'il voyait. C'était Jésus. Je repris espoir. Pourtant, je ne fis rien pour attirer son attention. Je me dis si seulement il voulait bien regarder dans ma direction, il me ferait sortir de cet endroit parce qu'il saurait ce qu'il faut faire. Il passa et je crus qu'il n'allait pas regarder dans ma direction, mais juste avant de disparaître, il tourna la tête et me regarda dans les yeux. Rien de plus. Son regard suffit. Quelques secondes plus tard, je réintégrais mon corps. Je fus comme franchir. Ce fut comme de franchir le seuil d'une maison. J'entendis les Brooks, les gens chez qui je logeais, prier plusieurs minutes avant d'être en mesure d'ouvrir les yeux et de parler. Soudain, mon corps reprit vie, j'ouvris les yeux et leur parlai. Parler de ce que l'on a vu ou le décrire ne présente pas de difficulté. Je sais qu'il existe un lac de feu parce que je l'ai vu. Je sais que Jésus-Christ vit dans l'éternité. cet homme est devenu un pécheur, mais un pécheur d'âme cette fois-ci, comme le furent les disciples de Jésus-Christ. L'exemple suivant est celui d'une malade victime d'une crise cardiaque. Elle assistait à l'office et tous les dimanches, elle se considérait comme une très bonne chrétienne. Voici son témoignage. Je me souviens que je perdis le souffle, puis j'ai dû m'endormir. Ensuite, je me suis vu sortir de mon corps. J'ai alors pénétré dans une pièce obscure et j'ai vu derrière une fenêtre un énorme géant au visage grotesque qui me quittait pas des yeux. Des démons couraient en tous sens sur l'appui de la fenêtre. Le géant me fit signe d'approcher. Je ne voulais pas, mais il le fallait. Dehors, il faisait noir, et j'entendis des gémissements tout autour de moi. Des choses bougeaient près de mes pieds, je les sentais. À mesure que nous avancions dans le tunnel ou la caverne, les choses empiraient. Je me souviens que je pleurais. Pour une raison inconnue, le géant me libéra et me renvoya. J'eus le sentiment d'être épargné, or j'ignore pourquoi. Je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital. Le médecin me demanda si je m'étais drogué. Ma description devait ressembler à un voyage et je répondis que cela n'était pas dans mes habitudes et que ce que je racontais était bel et bien vrai. Cela a complètement et totalement changé ma vie. Chers amis, le révérend Kenneth Hagin, qui a été connu dans le monde entier des évangélisations dans tous les endroits de la terre, dans tous les pays, ce révérend raconte lui aussi les expériences qui ont changé sa vie et qui l'ont amené à entrer en religion. Le 21 avril 1933, un samedi soir, à McKinney au Texas, mon cœur cessa de battre et l'être spirituel qui vit en moi quitta mon corps. Je tombais, et les lumières de la terre disparurent. Plus je tombais, plus l'obscurité devenait intense et le noir fut bientôt total. Je n'aurais pas vu ma main à 2 centimètres de mes yeux. Et plus je tombais, plus j'avais du mal à respirer et plus il faisait chaud. Enfin, je vis sous moi des lueurs tremblantes qui se reflétaient sur les parois des cavernes des damnés. C'était celle des feux de l'enfer. Une gigantesque sphère de flammes couronnée de blanc m'attira comme l'aimant attire le métal. Je ne voulais pas, mais tout comme le métal se précipite vers l'aimant, je fus attiré vers cet endroit. Je ne pouvais pas le quitter des yeux. La chaleur me frappait au visage. Au moment d'atteindre le fond de l'abîme, je sentis qu'un être spirituel inconnu se tenait à mes côtés. Je ne l'avais pas regardé parce que je ne pouvais pas quitter des yeux les feux de l'enfer. Mais quand je m'arrêtais, la créature me posa la main sur le bras, exactement entre le coude et l'épaule, et m'accompagna. Au même moment, une voix s'éleva loin, au-dessus des ténèbres, au-dessus de la terre, au-dessus du ciel. C'était la voix de Dieu. Je ne l'ai pas vu et j'ignore ce qu'il a dit car il ne s'exprima pas en anglais. Il parlait une langue inconnue et le son de sa voix emplissait tout le royaume des damnés, le secouant comme une feuille dans le vent, ce qui fit lâcher prise à la créature. Je ne me retournai pas, mais une force me tira. Je m'éloignai des feux, de la chaleur, et je retrouvai les ombres et l'obscurité. Je montai jusqu'au sortir de l'abîme, et je vis les lumières de la terre. Je regardai ma chambre tout aussi réelle qu'auparavant. Je rentrai dans mon corps. Je parlai alors à ma grand-mère. Elle dit, « Fils, je t'ai cru mort. » Je mentionnerai le cas d'un catholique maintenant, un catholique pratiquant, qui eut la surprise de passer par un tunnel bordé de feu dans la moitié inférieure et aboutissant dans un monde plein de flammes et d'horreur. Il vit quelques-uns de ses amis du bon vieux temps, le regard vide et apathique, ployant sous des fardeaux inutiles, sans jamais cesser de marcher, sans jamais oser s'arrêter, tant il craignait les chefs. Ce monde s'agite d'agitation, dérisoire, était entouré de ténèbres. Appelé par Dieu, qui le fit miraculeusement sortir de cet endroit, il échappa à la captivité permanente. Et depuis, il se sent obligé de mettre les autres en garde contre les dangers de la complaisance et de les inviter à s'installer fermement et définitivement dans la foi en Jésus-Christ. Concernant le suicide, à ma connaissance, il n'existe aucune bonne expérience de vie extracorporelle consécutive à un suicide. Ceux qui tentent de se suicider ont vu rarement une expérience dont ils acceptent de parler. Voici pourtant un récit recueilli par un pasteur. Une jeune fille de 14 ans fit une dépression à cause de son carnet de notes. La communication avec ses parents était principalement centrée sur ses insuffisances et plus récemment sur son inaptitude à faire aussi bien que sa sœur, son aînée de 2 ans, qui obtenait de bons résultats dans presque tous les domaines. On comparait même leurs allures et on ne lui faisait jamais le moindre compliment. Il lui fallut présenter son carnet de notes à ses parents. Elle monta donc dans sa chambre et cherchant le meilleur moyen de résoudre le problème, prit un tube d'aspirine dans la salle de bain. Il contenait probablement 80 cachets et il lui fallut beaucoup d'eau pour les avaler. 2 heures plus tard, ses parents la trouvèrent dans le coma. Elle avait vomi sur l'oreiller et sur son propre visage. Heureusement, de nombreux cachets n'avaient pas été absorbés et elle reprit conscience 2 heures plus tard dans la salle d'urgence de l'hôpital après un lavage d'estomac au bicarbonate de soude destiné à neutraliser l'acidose qui se traduit par des difficultés respiratoires caractéristiques du coma dû à l'aspirine. Excusez-moi. Au cours d'une crise de vomissement, elle absorba un peu de vomi, eut un spasme de corde vocale, cessa de respirer et le cœur s'arrêta. Elle surmonta cela immédiatement grâce au massage externe et à l'insertion d'un tube respiratoire, donc dans la gorge et la trachée artère. Elle garde peu de souvenirs de cet épisode, pendant lequel elle ne cessa de crier « Maman, maman, aide-moi, empêche-les de me toucher, ils veulent me faire du mal. » Les médecins s'excusèrent de la brutaliser, mais elle leur répondit qu'il ne s'agissait pas d'eux, mais des démons de l'enfer. Ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ils me veulent. Je ne peux pas partir. C'est horrible. Elle dormit encore toute une journée et sa mère ne quitta pratiquement pas son chevet. Elle priait tout au long. Lorsque les tubes furent enlevés, je lui demandai de me raconter ce qui s'était passé. Elle se souvenait bien avoir pris l'aspirine, mais c'était tout. Ses souvenirs demeuraient relégués au plus profond de son inconscience. Chers amis, nombreux sont ceux qui demandent « Dieu existe-t-il vraiment ? Ou bien l'univers résulte-t-il de l'explosion d'une énorme masse de matière qui aurait créé d'innombrables étoiles ? Et d'où venait la masse de matière originelle ? Fut-elle le fait du Créateur ? Et lui, d'où venait-il ? A-t-il également créé la vie ? Est-il possible que l'expansion de l'univers, qui aujourd'hui encore obéit à des lois physiques précises, ait été dirigée et contrôlée par une intelligence suprême? Le professeur de biologie Edwin Conklin a comparé la probabilité pour que la vie apparaisse par hasard à la probabilité pour qu'un dictionnaire complet soit produit par l'explosion d'une imprimerie. Pourtant, de nombreux savants affirment que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a que la science et rien d'autre. Mais ils oublient que le Dieu de la science change continuellement, qu'il faut sans cesse le mettre à jour et le modifier, tandis que le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Peut-être certains tentent-ils de se réfugier dans l'athéisme ou l'agnosticisme, parce que croire en Dieu implique que l'on doit lui rendre des comptes. D'autres cherchent Dieu avec on peut dire un regard de myope, alors qu'il leur suffirait de regarder autour d'eux sa création qui partout parle de lui. Il est certain que le chaos du hasard n'aurait pas pu produire le cosmos d'ordre que nous connaissons. Savoir si Dieu existe ou non est important. C'est même la question la plus importante que l'on puisse se poser. Elle détermine non seulement notre avenir, mais également notre mode de vie actuel. Aujourd'hui encore, je ne comprends ni l'immensité du pouvoir de Dieu, ni la pureté de sa sainteté. Comment peut-on être à la fois aussi impitoyable dans sa justice et aussi aimant et miséricordieux? Son équité elle me terrifie. Pourtant, son amour me submerge, et à raison de ma fierté, mon esprit mortel, trop faible pour le contenir ou le définir, m'empêche de le comprendre entièrement. Pourtant, je le connais personnellement, oui, grâce à Jésus-Christ, car c'est mon Père céleste. Les sujets réanimés qui ont, disent-ils, franchi la barrière et prétendent avoir entrevu le paradis, insistent sur le fait qu'il s'agit d'un endroit bien réel, matériel, avec des rues d'or. Ces récits sont très proches, en somme, de la description de la Nouvelle Jérusalem telle qu'elle est présentée au chapitre 21 de la parole de Dieu dans Apocalypse, au chapitre 21, versets 18 à 23. Et cela alors que la plupart d'entre eux n'avaient pourtant jamais lu ce passage auparavant, souvenez-vous. Il est dit dans la Sainte Bible, « Et la muraille était construite en jaspe, et la ville était en or pur, ressemblant à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toutes sortes, et les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était faite d'une seule perle, et la grande artère de la ville était d'or pur, comme du verre transparent, et je n'y ai pas vu de temple, car son temple, c'est Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illuminait, et sa lampe était l'agneau. À supposer que le paradis existe vraiment, je me demande quel moyen de transport peut nous y conduire. La vitesse de la lumière elle-même serait certainement trop lente. Celle de la pensée, peut-être. Les Écritures passent ce sujet sous silence. Néanmoins, on constate que ceux qui ont fait l'expérience de la vie après la mort affirment que le déplacement est souvent aussi rapide que la pensée, c'est-à-dire qu'il est instantané. L'expérience de Philippe, telle que la présente la Sainte Bible, est peut-être un exemple de déplacement instantané. Alors qu'il baptisait, il était en train de baptiser l'eunuque d'Éthiopie, eh bien, quelque part près du désert de Gaza, il fut tout à coup enlevé ou transporté et se retrouva dans une ville proche de la côte. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Persuadé, comme nous le sommes, que le monde nous appartient et qu'il nous doit les moyens de subsister, nous gaspillons notre vie à satisfaire des plaisirs périssables. Nous estimons avoir droit à la nourriture, à la chaleur, à l'abri et aux vêtements, et il est rare que nous nous demandions d'où vient tout cela et comment c'est arrivé. Et nous n'en remercions personne. Ainsi de l'herbe. Comment, chers amis, se fait-il qu'il y en ait, et pourquoi est-elle verte et non violette ou jaune ou de n'importe quelle autre couleur? On nous dit que tous les feuillages sont verts parce qu'ils contiennent de la chlorophylle, élément chimique de couleur verte. Mais d'où vient la chlorophylle? A-t-elle été inventée et créée ou bien est-elle apparue spontanément? C'est elle, s'était-elle peut-être constituée accidentellement dans le limon originel? Si tel est le cas, l'homme, un être plus intelligent que le limon, devrait être en mesure d'en fabriquer, mais il en est absolument incapable. En dépit de tout ce que nous savons, la chlorophylle, cette substance chimique qui donne son vert à l'herbe, reste mystérieuse. Si nous pouvions seulement produire ce composé, le problème de la faim dans le monde serait résolu. La chlorophylle fabrique les substances nécessaires à notre alimentation. Sous l'action du soleil, elle transforme l'eau et l'oxyde de carbone en amidon et en sucre. L'amidon, à base de chlorophylle contenu dans les parties vertes de tous les feuillages et dans la plupart des produits, est un élément essentiel de l'alimentation de l'homme et des animaux. On a calculé qu'une usine à chlorophylle, grande comme la moitié d'un terrain de football, pourrait fabriquer assez de nourriture pour subvenir aux besoins de la population mondiale pour toujours. Mais si seulement nous étions capables de synthétiser la chlorophylle. Les évolutionnistes affirment que le limon savait la fabriquer. Or, la Bible laisse entendre que Dieu seul sait en produire. L'homme admet qu'il est incapable d'en obtenir. Devons-nous, en conséquence, nous en remettre à la sagesse d'un limon impersonnel ou à celle d'un Dieu personnel? Chers amis, nous allons terminer notre étude qui a été assez importante et je voudrais, avant de prier ensemble, vous transmettre quelque chose. Donc, avant de prier, j'aimerais vous transmettre quelques enseignements et encouragements. Écoutez bien. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes qu'un instrument. Ce n'est pas à vous de décider comment, quand et où vous devez agir. Le Seigneur se réserve cette responsabilité. Entraînez-vous seulement à être parfaitement apte à semer la bonne parole. Il faut donc remédier à tout ce qui vous empêche d'accomplir ce qui vous est demandé. Une seule croix suffit à porter les fardeaux du monde, c'est celle de Jésus-Christ. Bien insensé donc est celui ou celle de mes disciples qui veut porter lui-même ou elle-même ses fardeaux alors que leur vraie place est sur ma croix. Il ressemble ou elle ressemble à un homme, à une femme exténuée qui s'avertuerait à porter une charge écrasante sur une route brûlante et poussiéreuse alors que tout a été prévu pour que cette charge soit transportée autrement. Mais peut-être pensez-vous, mes chers enfants, à ces paroles qui sont de votre Seigneur. Il est dit, et il l'a dit, « Chargez-vous chaque jour de votre croix et suivez-moi. Sachez que Jésus-Christ vous aidera à la porter. » Sans doute, mais cette croix qui vous est proposée à chacun est uniquement celle où vous devez accepter que soit crucifié le moi, votre moi qui se recherche et qui empêche tout progrès et toute joie véritable parce qu'il ferme votre être à la vie de Jésus-Christ et à son Esprit Saint, qui seul remplisse de vigueur. Prêtez donc l'oreille dans l'amour et dans la joie, et réjouissez-vous en votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, prions. Venez et portons à la montagne de l'Éternel, à la montagne des béatitudes. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Ô Dieu, viens à mon secours. Hâte-toi de me secourir. Que Dieu allume en nous le feu de son amour et la flamme de l'éternelle charité. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme dès le commencement et aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et chers amis, merci de l'intérêt que vous portez à ces études et à demain matin pour la suite. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.